en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, connaissez-vous Ampère ? André Marie Ampère pour être exact. Vous savez qu'il était mathématicien, physicien, et que son nom a été donné à l'unité internationale de courant électrique, l'ampère. Mais cet homme du siècle des Lumières fut bien plus que cela. Ampère était un romantique, un chrétien, un philosophe et bien sûr un homme de science, mathématicien et physicien, ami de François Arago, de Fresnel, de Delambre, également botaniste et naturaliste à 16 heures. Pour dépeindre le portrait de ce surdoué toute catégorie, nous recevons Robert Loqueneux. Robert Loqueneux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur émérite à l'université de Lille 1, physicien, théoricien, historien de la physique, et vous êtes l'auteur d'Ampère, encyclopédiste et métaphysicien, paru chez EDP Sciences en mai 2008. Comment vous êtes-vous intéressé à la vie d'André-Marie Ampère, Robert Loqueneux ?
J'ai commencé à m'intéresser à la vie d'André-Marie Ampère lorsque Madame Scheidecker m'a demandé si elle pouvait faire une thèse avec moi. Et comme elle était chimiste et qu'Ampère était à la fois physicien et chimiste, j'ai pensé qu'on pouvait avoir là un terrain de compétences communes. Donc j'ai mis Madame Scheidecker sur un sujet de thèse, Ampère chimiste, et après on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire un bouquin sur Ampère physicien et chimiste. Et puis ensuite, un peu à la fond, je me suis aperçu personnellement qu'il était peut-être plus intéressant de prendre le personnage dans son entier. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure un peu périlleuse et très longue.
Alors une sacrée aventure, puisque nous sommes en radio, on ne peut pas le voir, mais alors votre ouvrage fait quelques 700 pages, voire même plus. Donc un ouvrage bien sûr très complet. Vous vous basez sur les correspondances d'Ampère.
Je me base sur à la fois les œuvres scientifiques d'Ampère, naturellement, sa collection de textes publiés, de ses ouvrages publiés de philosophie. Il a publié quand même un peu de philosophie. Et surtout en philosophie, sur la correspondance Mène de Biran Ampère, c'est là qu'on trouve cette philosophie d'Ampère qui est exposée à sa naissance.
Nous allons donc commencer à dresser le portrait d'André-Marie Ampère, qui naît en 1775 à Lyon, d'une famille qui travaille dans le milieu de la soie. C'est donc un milieu bourgeois.
Lorsque Ampère a l'âge des souvenirs, son père est déjà, on peut dire, rentier. Il vide ses rentes, il a un appartement à Lyon et il a une ferme avec une demeure un peu seigneuriale à côté de la ferme, jouxtant la ferme, à Polémieux. Et c'est là qu'on passe l'été. L'hiver se passe à Lyon et l'été, toute la belle saison se passe à Polémieux. Et le père a entrepris d'enseigner à son fils, qui n'est jamais rentré dans une école avant de devenir professeur.
Alors on est là déjà en pleine philosophie des Lumières, plein siècle des Lumières, où le père fait les cours à son fils, comme un peu Rousseau l'écrit dans Émile ou de l'éducation.
Oui, un peu. Un peu, il faudrait ajouter quand même que l'enseignement a peut-être du fils en père a été peut-être un tout petit peu plus directif que ça. Le père avait quand même les pieds sur terre et on n'a pas attendu qu'il ait envie d'apprendre à lire tout seul pour l'apprendre à lire. Alors il a appris comme tout le monde en son temps, dans les Buffons de la jeunesse d'abord, dans Buffon ensuite. L'encyclopédie a été, disons, un peu sa pitance habituelle. Et à un certain âge, vers les 15 ans, lorsqu'il s'est heurté aux articles de mathématiques qui présentaient certaines difficultés, son père l'a emmené à Lyon, où il voyait le professeur de mathématiques de l'institution du temps, et où il a eu, disons, quelques renseignements de mathématiques, et des renseignements de mathématiques donnés par les oratoriens qui avaient l'habitude de faire un enseignement qui était, disons, qui laissait aux élèves le soin d'apprendre seul et qui faisait que des guides de préparation d'enseignement.
Vous écrivez dans votre ouvrage qu'il fait sa première communication à l'Académie de Lyon à l'âge de 13 ans. Il était déjà surdoué ? Quelle était déjà cette communication, peut-être ?
c'est quelque chose de très léger, comme on peut le faire. Disons qu'il était quand même plus doué qu'un autre. Disons qu'il y aurait accédé à 17 ans s'il avait eu, disons, une intelligence normale. Mais ça n'aurait pas été une vraie communication. L'Académie de Lyon, on pouvait présenter quand même des choses de ce genre. C'était pas, disons, quelque chose qui se publiait sous le contrôle de l'Académie. C'était quelque chose d'un peu familial à ce niveau-là.
Alors un peu plus tard, donc rappelons-le, Ampère naît en 1775, un peu plus tard, sa sœur Antoinette, qui est plus âgée que lui, décède, et un peu plus tard, c'est son père qui meurt. Vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, il a été, son premier traumatisme vient du décès de sa sœur Antoinette, qu'il aimait beaucoup, profondément, et on peut même dire qu'il a eu un choc énorme et que lorsqu'il écrit un poème à la mort de sa sœur, c'était vraiment le poème de quelqu'un qui est amoureux. Il y a là quelque chose de vraiment troublant.
Je peux peut-être en lire quelques lignes, oui, puisque je l'ai sous les yeux. Je vais peut-être lire les trois dernières lignes de ce poème, une élégie. Que la nature inspire à notre enfance les plaisirs purs que sa main nous dispense de ces beaux jours filaient tous les moments. Pour terminer sur ce poème.
Oui. Alors, le grand drame, ça a été, disons, le père, Jean-Jacques, qui est décapité à Lyon. Il avait été, disons, un juge girondin à Lyon pendant la Révolution. Et Lyon est devenu girondine lorsque Paris devenait jacobine. C'est le drame de Lyon. Et Ampère, le fils, était à Polémieux. À cette époque-là, il était plongé dans les œuvres de Lagrange. Et semblerait qu'il ne se soit aperçu de rien, que personne ne le renseignait de ce qui se passait à Lyon. Et lorsqu'il a appris la mort de son père, ça a été un traumatisme. Et on nous dit qu'il a été pendant un certain temps un peu idiot. Et qu'il ne s'est réveillé que, disons, beaucoup plus tard.
Alors, vous citez, vous parlez d'idiot, hein, donc je cite, vous parlez d'ailleurs beaucoup des écrits de Charles Sainte-Beuve. Hein, donc vous citez Charles Sainte-Beuve qui parle que justement il tombe dans l'idiotisme et passait ses journées à faire des petits tas de sable. Donc effectivement, il est en dépression.
Il est en dépression, oui.
Et laisse son esprit errer.
Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a deux notices nécrologiques d'Ampère qui sont celles de Sainte-Beuve et celles d'Arago. Donc on a vraiment là, déjà avec ces deux notices, on a de quoi avoir une très belle esquisse d'Ampère. Elle n'est pas toujours tendre, cette esquisse, surtout celle d'Arago.
Au moment où son père est décapité, au moment de ce triste moment de l'histoire pour Ampère, Ampère glisse, on en a parlé un petit peu au début de l'émission et puis on va bien sûr développer tout ça, il glisse vers la poésie. Alors là, vous y allez, vous faites votre propre commentaire en disant qu'heureusement heureusement qu'il n'a pas poursuivi dans ce domaine,
oui.
Mais c'était un touche-à-tout.
C'est-à-dire que à la fin de l'Ancien Régime, il y a eu une mode très importante du théâtre. Et dans les milieux bourgeois, petits bourgeois même, quelquefois, on s'essayait à écrire des pièces de théâtre. Et avec son père, il s'exerçait à écrire des pièces de théâtre qui n'ont jamais abouti d'ailleurs, et qui ne nous sont pas vraiment restées. C'était des fragments de pièces qui ont été commencées, qui n'ont jamais été terminées. D'ailleurs, après, lorsqu'il rencontrera Julie et lorsqu'il sera fiancé, dans la famille de Julie, on retrouve ce même, disons, intérêt pour le théâtre, pour le théâtre joué en famille. C'est quelque chose qui reste, c'est une des douceurs de l'Ancien Régime qui reste à cette société bourgeoise qui a suffisamment d'argent pour vivre de ses rentes.
Vous parlez de Julie, la transition est toute trouvée puisque justement je voulais aborder les différentes conquêtes féminines d'Ampère. Il y aura deux femmes au cours de sa vie. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a une qui a plus compté qu'une autre. Je pense qu'on peut dire que Julie, la première, a été un mariage d'amour.
C'était un mariage d'amour. Peut-être pas pour Julie. Peut-être pas pour Julie. Je crois que vous devez vous en apercevoir à la lecture du livre, hein, qu'elle a hésité beaucoup.
Ils se sont rencontrés en 1776, mais se marièrent qu'en 1799.
Oui.
Delot a passé
Il fallait qu'André gagne sa vie. Donc, il est parti à Lyon à ce moment-là pour donner des cours particuliers. Et c'est en donnant des cours particuliers, d'ailleurs, qu'il a préparé un de ses élèves à l'école polytechnique et que cet élève a eu le concours de polytechnique.
C'est à cette époque où donc il est marié en 1799 avec Julie. Il est à Bourg-en-Bresse, à l'école centrale.
Oui.
Et là, il est confronté à des problèmes d'argent, c'est-à-dire que l'école centrale ne suffit pas. Il doit également donner des cours à l'extérieur, dans des institutions privées, pour subvenir, j'imagine, à ses besoins, mais également aux besoins de sa femme.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que sa femme ne travaille pas et naturellement,
souffrante.
Lui a une situation financière qui a été écornée par les révolutions. Donc, il doit travailler pour vivre. Normalement, on peut penser, enfin, si on fait de l'histoire fiction, on peut penser que s'il n'y avait pas eu ces événements-là, Ampère aurait brigué un poste, une place à l'Académie de Lyon, qu'il aurait pu faire sa carrière à Lyon, avec, disons, des revenus familiaux qui auraient été suffisants. Mais là, il doit vraiment gagner sa vie.
Alors, je le disais, Julie est souffrante. Hein.
Oui.
D'ailleurs, les médecins, encore aujourd'hui, se posent la question de savoir si elle avait une tuberculose, une tumeur ou autre. Elle meurt en 1803 et là, pour Ampère, c'est le début d'un tournant dans sa carrière puisqu'il quitte Lyon pour Paris.
Il quittera Lyon un an plus tard. Un an plus tard, c'est-à-dire lorsqu'il aurait un poste à Paris, bien sûr. Mais... À Lyon, il vit, disons, très mal seul.
Là aussi, vous parlez de dépression, qu'il se réfugie dans la religion.
Oui. Alors, il y a tout un groupe d'amis qui parlent religion, qui se réunit pour faire des études religieuses, et il en fait partie. Et ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est que pour un scientifique...
Alors un encyclopédiste qui se réfugie dans la religion. N'est-ce pas contradictoire ?
Pas tant que cela, quand même, pas tant que cela. C'est-à-dire qu'il aurait été dans la bonne lignée encyclopédiste. Je mets à part des gens comme Condorcet. Mais prenons Condillac. Condillac, quand même, un abbé qui a un esprit très religieux. À partir de la théologie naturelle, Condillac donne une démonstration de l'existence de Dieu par la nature. Et il arrive même à déduire, selon ses déductions à lui, bien sûr, hein, on n'est pas obligé d'y prêter une valeur extrême, mais il arrive même à démontrer les vertus théologales de Dieu, c'est-à-dire la foi, la charité. Donc il y a une possibilité pour Ampère, qui n'est quand même pas si loin que ça de ces encyclopédistes-là, de ces philosophes de la nature-là, il aurait pu se tourner vers les démonstrations par les merveilles de la nature, de l'existence de Dieu. Or, ce qui l'intéresse directement, c'est la christologie. C'est le Christ. Mais il est dans une famille janséniste, profondément janséniste. Et lorsqu'il aura des dépressions, les dépressions seront des peurs atroces d'être abandonné de Dieu, de ne pas avoir la grâce, de ne pas avoir reçu la grâce. Et là, on aura, disons, à côté de ces quelquefois désordres amoureux, ce genre de désordre, quelquefois même mêlé les deux. Hein? Donc, c'est assez curieux. D'ailleurs, dans ce groupe d'amis, il y a Ballanche, qui va écrire un ouvrage qui sera, dans la lignée de, enfin, disons, qui précédera le génie du christianisme de Chateaubriand et qui dira des choses avant que Chateaubriand ne les exprime. Naturellement, chez Ballanche, c'est beaucoup moins bien écrit. Ce n'est pas Chateaubriand qui veut. Mais ce groupe d'amis a mis en place une société mystique. D'où est sorti cet ouvrage qui, disons, précède le génie du christianisme. D'ailleurs, lorsque Chateaubriand viendra à Lyon, Ballanche, qui était par ailleurs le fils d'un imprimeur, fera imprimer le génie du christianisme, deux éditions du génie du christianisme.
Donc cette société chrétienne, c'est, je crois, Ampère lui-même qui la fonde. Et un an plus tard, cette société, en fait, se délite.
Elle se délite parce qu'il part. Et aussi parce que les autres ont aussi d'autres centres d'intérêt, il faut bien voir. Enfin, c'était quelque chose d'un peu provisoire. D'ailleurs, ça renaîtra plus tard un peu de ci, de là. On aura encore des velléités de recommencer la société chrétienne.
Robert Lochneux, avant de marquer une pause, pour mieux cerner un peu le caractère de ce personnage qu'est André-Marie Ampère, je vous disais en préparant cette émission que je le trouvais un peu maladroit, et vous me disiez qu'il n'était pas finalement maladroit, mais qu'il était inadapté à la société. En quoi était-il inadapté ?
C'est un personnage assez souvent dans la lune, si vous voulez. Il lui arrive, par exemple, d'être en société et d'oublier où il est. Et par exemple, il a une sortie à un repas, disons, où il est invité dans la haute société en disant, mais se retourner et dire comme ça, mais pour chercher sa sœur et dire comme ça, mais enfin, ce repas est déplorable. Comment tu as fait pour recevoir tes invités de cette façon-là ? Alors qu'il n'est pas chez lui, mais il est ailleurs. Vous voyez, il est assez souvent dans ses rêves, dans ses pensées. Alors, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être amoureuses, elles peuvent être scientifiques. Mais il est toujours un peu à côté.
Et ça ne gêne pas son génie, justement, ce côté dans la lune ?
Non, parce que lorsqu'il est dans un sujet, il l'accapare complètement pendant un certain nombre d'heures. Et le lendemain, quand il le reprend, il le réaccapare à nouveau. Lorsqu'il a écrit ses articles de chimie, il était dans une sorte de désordre amoureux absolument épouvantable. On avait vraiment l'enfant du siècle. Mais lorsqu'il était en dehors de ses papiers. Quand il travaillait comme une brute, il était complètement enfermé dans son travail de recherche et rien ne le distrayait. Et dès qu'il avait levé le nez de ses papiers, il lui venait l'envie de se suicider ou autre chose de ce genre. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la société où il est.
Est-ce qu'il vivait peut-être en dehors de son temps ? Est-ce qu'il aurait été plus adapté pour cette époque actuelle, par exemple ?
À aucune époque, il n'eût été adapté, je crois. Non, c'est un tempérament qui se jette sur une idée. Par exemple, lorsqu'il voit ses amis, il peut leur faire un exposé qui va durer 8, 10 heures, 15 heures, sans s'arrêter. Il y a, par exemple, un moment où Jean-Jacques arrive chez lui avec des jeunes gens de son âge, ou tout le monde a envie de chahuter un peu.
Jean-Jacques, donc le fils d'André.
Le fils d'André. Et tout le monde a envie de chahuter un peu. Et il y a un mauvais plaisant qui joue à mettre le feu au pantalon d'André-Marie. Et puis, bien sûr, après on vient pour éteindre le bas du pantalon. Mais il est dans une grande conversation, en train de parler. D'ailleurs, il n'y avait plus d'interlocuteur qu'il continue à parler parce que les autres s'amusaient à côté. Les jeunes gens s'amusaient à côté, lui continuait à parler, il s'est même pas rendu compte qu'on brûlait le bas de son pantalon.
D'accord, oui, tout à fait. Donc, à l'image, cette anecdote qui est très révélatrice du personnage.
C'est à l'image du personnage qui nous est présenté, c'est le professeur Costinus, quoi.
Robert Lochneux, on marque une pause, oui. Si vous le voulez bien. Dans la deuxième partie de l'émission, vous parliez du chimiste, on va parler du chimiste, oui. Du philosophe, du physicien, André-Marie Ampère. À tout de suite.
Canal Academy vous propose de retracer les migrations des hommes préhistoriques. Comment et pourquoi les hommes fossiles sont-ils passés d'un continent à un autre ? À partir de quand parle-t-on d'hominidés et non plus de primates ? Réponse en compagnie d'Henri de Lumley, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Ce préhistorien mondialement connu nous livre un exposé passionnant dans notre émission Éclairage, émission en libre téléchargement sur Canal Academy.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de Robert Lochneux, avec qui nous dressons le portrait d'André-Marie Ampère. Robert Lochneux, juste avant la pause, je disais que nous allons parler de la philosophie, de André-Marie Ampère, philosophe, chimiste, physicien, mathématicien, bien sûr. Quand il arrive à Paris, il débute sa carrière, il a alors 30 ans, et donc il va commencer comme répétiteur à l'école polytechnique. Je crois que c'est un ami qui le place ici.
Il avait la recommandation de Lalande et ensuite celle de Delambre, qu'il a connue à Bourg-en-Bresse.
Quand il était à l'école centrale.
Quand il était à l'école centrale de Bourg-en-Bresse. Il a la haute protection du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère de l'Enseignement. Et c'est des Gérandeau, qui est un ami très personnel, puisque c'est un Lyonnais qui a, disons, défendu Lyon pendant la guerre du siège de Lyon.
Alors dites-moi, vous me dites qu'il est dans la lune avant cette pause. Pourtant, il sait bien s'entourer, André-Marie Ampère.
Je crois que...
À moins que ce soit le hasard.
Il y a énormément d'effets du hasard d'avoir été nommé à Bourg-en-Bresse et là où se trouvait Lalande, qui était un vieux bonhomme à l'époque, et qui s'est intéressé à lui tout de suite et l'a recommandé à Delambre, qui était inspecteur général et qui est venu l'inspecter. Donc il y a là un effet heureux du hasard. Ce n'est pas par hasard que les défenseurs de Lyon se sont retrouvés, disons, aux postes principaux de l'Empire et de la Restauration. Il avait vraiment des amis qui avaient une forte personnalité et qui avaient quand même, on peut dire, du génie.
En tout cas, Ampère arrive à Paris en 1804 et 2 ans après seulement, il se marie à une jeune femme qui s'appelle Mademoiselle Poteau. Vous pourriez nous en dire plus sur ce mariage ?
Les Poteau sont des gens d'origine lyonnaise. Monsieur Poteau est à l'Académie de Lyon. Il a même présenté 2 papiers à l'Académie de Lyon. Des Gérandeaux emmènent Ampère souper chez les Poteau en ne pensant à rien de particulier. Ampère tombe amoureux de Mademoiselle Poteau. Les négociations pour le mariage sont quelque chose d'assez sordide. Des Gérandeaux, qui a la signature pour la mère d'Ampère, pour les actes de mariage, refuse de signer ces actes, met en garde Ampère. Ampère va voir les Poteau. Mademoiselle Poteau est en larmes. Ampère fond et épouse Mademoiselle Poteau malgré, des manœuvres, assez curieuses d'actes de mariage qui étaient vraiment totalement défavorables à ce pauvre Ampère.
Il a été manipulé, vous voulez dire ?
Oui, il a été manipulé. Il a été manipulé, mais il est des gens qui se font manipuler facilement, d'une certaine façon. Et donc le mariage sera l'occasion, à l'occasion du mariage, il faut flatter les Poteau. Alors la liste des invités au mariage en dit assez long. Il y a le ministre de l'Intérieur, qui est en même temps gérant des affaires de l'enseignement. Il y a le général commandant l'école polytechnique, il y a le Delambre, il y a Laplace, il y a une foule de personnages hauts, importants de l'Institut de France. Donc, on peut dire que Ampère, par des Gérandeaux, par Delambre aussi, mais surtout par des Gérandeaux, est très protégé et disons, très défendu. Il faut penser que Ampère n'est encore que vraiment un modeste enseignant de l'école polytechnique et même un enseignant qui, disons, n'a pas toutes les qualités pédagogiques requises pour travailler dans un grand amphi.
Alors justement, comment arrive-t-il aux mathématiques et comment se met-il à travailler dans le domaine des mathématiques ?
Alors, au tout début, il fait des papiers en mathématiques. Il commence des papiers en mathématiques, très modestement. Ce sont des articles de mathématiques qu'il a présentés à Delambre et que Delambre a présenté à l'Académie alors que Ampère était encore à Bourg-en-Bresse. Donc, il était tout à fait naturel que Delambre négocie un poste d'enseignant à Polytechnique qui soit un poste d'analyse. L'analyse mathématique. Donc Ampère travaille, continue à travailler en mathématiques. Depuis Bourg-en-Bresse, Lyon et Paris, il continue son travail en mathématiques. Une fois qu'il a sa titularisation et une situation bien assise à Polytechnique, il rencontre des philosophes et à ce moment-là, ses centres d'intérêt basculent et les mathématiques ne l'intéressent plus. Les déserts mathématiques ne l'intéressent plus alors qu'il y a les frais bocages de la philosophie, nous dit-il. Et c'est ainsi que son intérêt pour les mathématiques reviendra lorsqu'il y aura envie d'avoir un fauteuil à l'Académie des sciences. Donc à ce moment-là, il se hâtera d'écrire des articles de mathématiques, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de mathématiques. Donc de ci, de là, il refera des mathématiques, même quelquefois des mathématiques, de la physique mathématique. Mais son principal intérêt, dès qu'il est titularisé à Polytechnique, dès qu'il rencontre, disons, la société d'Auteuil, et les gens d'Auteuil, c'est-à-dire qu'ils lui sont... C'est des Gérandeaux qui l'emmènent à Auteuil pour rencontrer des philosophes. Donc, dès qu'il rencontre ces philosophes, son intérêt pour la philosophie est complet, mais en même temps, il papillonne beaucoup. Il s'intéresse aussi à l'âge de la Terre, il s'intéresse à la classification des plantes. Rien ne le laisse indifférent. Et il s'intéresse aussi à la chimie. Il s'intéresse à la chimie parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient en chimie. C'est-à-dire qu'on découvre des substances, on ne sait pas si ce sont des corps composés ou des corps simples. Donc, il faut prendre parti. Alors là, avec la littérature qu'il peut glaner sur les expériences de chimie qu'il ne peut pas faire, il n'a pas de laboratoire de chimie, il se bâtit une théorie et finalement, c'est lui le premier qui est vraiment convaincu du caractère élémentaire du fluor, du chlore et du brome.
Alors, vous avez évoqué tout ce que j'avais préparé en fiche, vous l'avez évoqué en quelques minutes. Revenons, si vous voulez bien, vous avez parlé très rapidement de son élection à l'Académie des sciences. Il est élu en 1814.
Oui.
J'imagine qu'il a dû se présenter plusieurs fois avant d'être élu. Est-ce que c'était une place vraiment qu'il convoitait, un siège à l'Académie des sciences ?
Oui. Il pensait qu'en rentrant à l'Académie des sciences, il pourrait, avoir une plus grande liberté de travail et de publication, évidemment. Et il cherchait les honneurs, comme tout le monde en ce temps-là cherchait les honneurs, et il estimait qu'il avait le droit d'avoir un poste à l'Académie des sciences, alors il a été candidat. Alors naturellement, la candidature ne s'est pas faite facilement parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été éliminé de l'Académie pour des raisons politiques. On ne savait pas qui voulait candidater. Dans les candidats possibles, il s'est désisté un moment pour quelqu'un d'autre parce qu'il pensait que ce personnage ne pourrait pas l'avoir, mais que lui pourrait l'avoir par après, autrement. Enfin, il y a eu toute une histoire assez sombre qu'on comprend très mal lorsqu'elle est expliquée par un ami de son fils. Au fils qui est justement à Rome, qui explique ce qui se passe à Paris, justement, et en père qui voudrait récupérer quelques voix à l'Académie, est fort mari, puisque Madame
Récamier
n'est pas à Paris à cette époque-là, son fils non plus, Jean-Jacques Ampère, le fils, n'est pas là non plus. Donc, et dans le salon de Madame Récamier, on peut amener un certain nombre d'immortels à voter pour quelqu'un qu'on défend. Donc, il y a toujours ce côté j'essaie d'avoir des appuis pour avoir une place quelque part.
Comment Ampère en arrive à la philosophie et plus exactement à la science de l'âme ? Il s'intéresse à la science de l'âme, à la psychologie.
À la psychologie. Il y avait dans la jeunesse d'Ampère des concours à l'Académie. Alors, il a concouru à l'Académie, il a commencé à préparer un mémoire de concours à l'Académie qui n'a pas abouti, il en avait écrit une trentaine de pages, ça n'a pas été terminé. Donc il s'est intéressé dans son coin, un peu seul, à la philosophie de son temps. Mais il faut dire aussi que, ayant, disons, appris dans l'encyclopédie, il avait, avec d'Alembert, un modèle de scientifique philosophe. Et philosophie et science, pour les hommes des Lumières, ça n'était pas quelque chose de séparé. Je dirais même que littérature et science ne sont pas séparées. Si vous voyez par exemple Voltaire qui écrit une philosophie de Newton et qui est un livre très bien fait d'ailleurs de vulgarisation mathématique. Donc il n'est pas rare que lorsqu'on est, disons, dans l'atmosphère du 18e où il a été élevé, puisqu'après tout, son éducation s'est terminée assez vite. Finalement, à 18 ans, il savait, disons, sur le bout des doigts, la mécanique analytique de Laplace. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé au 18e. Il n'était pas anormal de se pencher sur des problèmes de philosophie, surtout lorsqu'il s'agit d'une philosophie qui pourrait rejoindre la science d'une certaine façon.
Il s'intéresse à la mémoire, je reprends, dans votre ouvrage, vous expliquez qu'il s'intéresse à la mémoire de l'an 12. Alors, je reprends.
Oui, il a fait un mémoire en l'an 12, c'est justement cette pièce de concours qu'il n'a pas terminée.
D'accord. Et donc vous expliquez, selon cette doctrine, le « moi » n'est pas, comme le conçoit Descartes, une substance pensante, consciente de soi, mais il est un effet de la combinaison des sensations et de l'expression de leur transformation dans le langage. Donc c'est très poussé, ça équivaut à...
C'est du sensualisme, oui. C'est du sensualisme. C'est sa fine pointe sensualiste, c'est-à-dire que lorsqu'il est apprenti philosophe, il prend les philosophes à la mode, c'est-à-dire qu'il prend du Condillac,
oui.
Il prend les autres philosophes du temps, et il arrive comme ça à avoir, quelque chose qui est dans le goût du temps. Et très vite, ça se juxtapose avec, disons, ses préoccupations mystiques, mais c'est au moment où il cesse de croire, d'une certaine façon. Il cesse d'être croyant.
Il délaisse la religion au profit de...
Il délaisse la religion
la croyance
et,
en la science,
et ses amis de Lyon sont vraiment, abattus, scandalisés, puisqu'ils ne parlent plus que de science ou de philosophie, et ils ne parlent plus jamais de religion. La religion, elle lui est devenue quelque chose d'étranger. Il faut cacher à sa mère qu'il ne croit plus. On en est là. Mais très vite, ça revient. Si vous voulez, c'est une parenthèse. Et très vite, il va devenir spiritualiste. Mais Desgirando est un bon chrétien. Desgirando fait aussi de la philosophie. C'est par un concours de philosophie qu'il s'est retrouvé, couronné par l'académie. Il va chercher au ministère une place pour pouvoir faire de la philosophie tranquillement et être quand même à peu près tranquille. Croyant rencontrer, le ministre, il rencontre le nouveau ministre qui est le frère de Napoléon, alors qu'on est sous le consulat, et c'est lui qui, après une conversation de plusieurs heures, l'a engagé et en a fait le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc c'est un personnage, si vous voulez. Mais alors, donc il va abandonner la philosophie, le malheureux. Il venait là pour avoir un poste, pour pouvoir faire de la philosophie, il abandonne la philosophie.
Et je crois qu'il va enseigner la philosophie pendant quelques années à la faculté de Paris.
Un an. C'est lui qui va ouvrir les nouveaux cours de philosophie à Paris, mais il était dit à l'époque que chacun ferait un an. C'était un groupe qui se réunissait pour philosopher en chœur, et chacun ferait un cours pendant un an. Alors ça a duré quelques années, après il y a un tout jeune qui est arrivé, c'est Victor Cousin, qui a pris le cours pour longtemps et qui a orienté tout l'enseignement de la philosophie en France pour presque des siècles, quoi.
Robert Lecneux, on marque une deuxième pause en troisième partie d'émission. Nous aborderons bien sûr les inventions d'Ampère et les applications industrielles et puis de la reprise du flambeau par son fils Jean-Jacques Ampère. Vous nous en avez parlé déjà au cours de l'émission. A tout de suite. Notre émission En habit vert en compagnie de Robert Lecneux qui a publié Ampère, encyclopédiste et métaphysicien, paru aux éditions EDP en mai 2008. Dans cette troisième petite partie d'émission, Robert Lecneux, on va quand même évoquer, on est obligé quand même de passer par là, par les inventions d'Ampère et ses applications industrielles et notamment cette fameuse dénomination de l'intensité électrique, l'ampère.
Oui. Quand Ampère aborde l'électricité, c'est parce qu'il y a un phénomène curieux qui apparaît, auquel personne ne croit avant de l'avoir vu. C'est qu'un fil voltaïque, c'est-à-dire un fil de cuivre qui est relié à une batterie, donc il passe, nous on dirait un courant, mais à l'époque on parlait d'un circuit voltaïque, il y passe quelque chose et ça fait dévier une boussole. Autrement dit, l'électricité en mouvement agit sur la boussole. Alors, à l'époque, l'électricité, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans le fil. Alors, on pense à des compositions et des décompositions de charges électriques dans la matière. Alors, naturellement, on n'a pas l'image d'électrons ou de particules positives ou de particules négatives qui circulent. On a une image de quelque chose où des molécules, disons, ont des charges électriques positives, négatives. Elles partent d'un côté, elles partent de l'autre. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais Ampère dit, on va utiliser une commodité mathématique. On va dire qu'il y a un courant, comme s'il y avait un courant de quelque chose. Il n'y a peut-être pas de courant. Et d'ailleurs, il a des interprétations qui sont celles de tous ses voisins. Il n'y a peut-être pas le courant, mais on va appeler ça courant électrique. On fera comme s'il y avait une circulation de charges positives. D'où le fait que la circulation qu'on compte en charges positives est le contraire du circuit des électrons. C'est cette commodité mathématique qui a été adoptée, qui a bien marché, et ensuite, lorsqu'on s'est aperçu que, beaucoup plus tard, 100 ans plus tard, qu'il y avait des électrons qui partaient dans l'autre sens, on avait un courant. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il avait prévu comme tel, c'est une commodité mathématique.
Il inventa aussi avec François Arago, enfin là c'est pas une invention, là c'est surtout voilà, une découverte là, sur ce que vous venez de nous expliquer, mais il découvra avec François Arago l'électro-aimant. Donc c'est basé sur ce principe.
Ben, à partir du moment où il a interprété, il a dit le courant électrique, les charges électriques en mouvement n'ont pas la même action que des charges électriques au repos. Donc il y a une électricité statique, donc il y a une électricité dynamique. Dynamique, ça veut dire en mouvement. Donc cette électricité dynamique agit sur une aiguille aimantée. Le vieux problème depuis le XVIIIe siècle, c'est de se dire qu'il faudrait pouvoir réunir en une seule science tous ces fluides, que ce soit la chaleur, l'électricité, les fluides magnétiques, la lumière, tous ces fluides, en une théorie unique. Là, il se dit, est-ce que je n'ai pas la possibilité d'une théorie unique entre électricité et magnétisme ? Et c'est là qu'il invente le solénoïde, c'est-à-dire la spirale de courant électrique, et cette spirale de courant électrique qui agit comme un aimant. Donc, agissant comme un aimant, on peut penser que les aimants sont dus à des particules magnétiques sur lesquelles il y a un courant électrique qui circule autour des particules. Donc, si vous mettez une population de ces molécules ensemble, si toute cette population est orientée de la même façon, on va avoir une résultante de courant électrique, comme s'il y avait un courant électrique autour de cet aimant.
J'imagine que c'est le même principe pour le télégraphe électrique ?
Le télégraphe électrique, oui, toutes ces choses dérivent de là, mais ça n'a pas particulièrement intéressé Ampère. Mm-hmm. Ce qui a intéressé Ampère, c'est de trouver une loi d'interaction. Et il l'a trouvé en imaginant des instruments de physique dans lesquels il y avait équilibre entre pesanteur qui agissait sur les corps et force électrique. Et alors là, il y a eu un certain génie pour conceptualiser des appareils qu'il a fait fabriquer. Naturellement. Ensuite, il fallait les faire fonctionner, les mettre en œuvre. Il était assez, disons, maladroit, et on peut penser que parce que, à cette époque-là, Fresnel habitait dans sa maison, et Arago y était souvent. Et Arago, lorsqu'il a vu Ampère se lancer sur de nouvelles théories sur le courant, sur l'électricité et le magnétisme, il ne l'a pas lâché d'une semelle. C'est-à-dire qu'il était tous les jours, il était là, et toutes les semaines, il fallait qu'Ampère présente un article, une note à l'Académie. Donc pendant 3 mois à peu près, il y a une note, hebdomadaire d'Ampère à l'Académie. Il était un peu cornaqué par son ancien élève, Arago, qui lui avait pris, disons, une sorte d'ascendant sur les deux. Et c'est lui qui les, non seulement qui les faisait travailler, mais comme il était en opposition avec les Laplaciens qui tenaient, les sciences à l'Académie, il fallait quelqu'un comme Arago qui était un fin politique pour les protéger et les défendre.
Les travaux sur l'électricité, c'est plutôt vers la fin de la vie d'Ampère.
1820-1826, alors en 1820, il a 45 ans.
45 ans, mais il meurt relativement jeune, il meurt en 1833.
Oui, bon. Ça. Oui, mais enfin, ses travaux sur l'électricité se terminent avec l'ouvrage qu'il publie sur les phénomènes électrodynamiques en 26. Et c'est pas 6 ans de travaux sur l'électricité, c'est 6 ans de travaux avec de longues interruptions, de maladies, il a une santé déclinante déjà à l'époque, et il travaille par à-coups. C'est-à-dire que lorsqu'il se sent doublé, par exemple, par Faraday, il se remet au travail. Alors, il a aussi 2 élèves qui vont le faire travailler un peu et qui vont publier aussi. Donc, ça le remet au travail. Mais il y a des élèves qui partiront après faire de l'astronomie ou toute autre chose, parce que de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui va fédérer des gens pour travailler pendant longtemps. Il n'est pas directeur de recherche. Ce sont des gens qui viennent s'accrocher à lui pour en tirer quelque chose en recherche.
Souvent, les grands noms publient beaucoup. Est-ce que Ampère fait partie de ces grands scientifiques qui ont beaucoup publié ? Il a écrit quelques traités ?
Les traités, bon, non, il a écrit énormément d'articles. Alors, ces articles de mathématiques font facilement 80 pages. Alors, quand vous avez une douzaine d'articles comme ça, ça fait quand même du volume. Hein ? Il a écrit des articles sur l'électrodynamique, naturellement. 3 articles de chimie, dont un qui doit faire une 60aine de pages. Il aurait pu faire un volume. Mais il n'a pas fait de livre de cette façon-là. C'est à la fin de sa vie qu'il fera, disons, son ouvrage sur les classifications des sciences cosmologiques. Et les classifications des sciences néologiques, il ne la fera pas, il ne la terminera pas puisqu'il est décédé. Et c'est le fils qui va entreprendre, disons, de reprendre, disons, tous les éléments de l'ouvrage pour les mettre en forme et les publier. Mais le fils est très discret sur son travail. Alors on ne peut pas savoir s'il n'a pas terminé l'ouvrage à la manière d'eux, ça on ne peut pas savoir.
Juste avant d'aborder cette troisième partie d'émission, je disais que le fils reprenait le flambeau. Ce que je voulais dire par reprendre le flambeau, c'était surtout entretenir la mémoire de son père.
Oui.
Son père décède en 1833, donc André Ampère décède en 1833 à Marseille. Je crois que c'est lors d'un voyage.
On est inspection académique. C'est au lycée de Marseille.
Je crois qu'il ne rendait pas visite à son fils, qui était aussi professeur.
La visite à son fils s'était faite quelques années avant, parce que son fils avait fait un cours, son premier cours, son premier enseignement à Marseille. C'était un cycle d'enseignement qu'il avait fait, qui durait, je crois, ça devait durer un mois ou deux. C'est tout. Et puis après, bien sûr, il a repris la route de Paris. Et le fils était assez souvent en voyage. C'est un homme assez fascinant, le fils aussi. Sa mémoire mériterait d'être cultivée aussi.
Alors le fils, vous en parlez à l'instant, Jean-Jacques Ampère, fit graver sur la tombe de son père, André Ampère, qui était donc le sujet de notre émission. Il fut aussi bon, aussi simple que grand. Mais c'est un peu à double sens. Aussi simple que grand.
Oui, oui, c'est aussi simple, oui, il y a un double sens. Tout à fait. Je pense qu'il l'aurait pas nié. Mais l'inscription sur la tombe d'Ampère au cimetière de Marseille, c'est Chateaubriand qui s'en est chargé, en voyage à Marseille. C'est pour vous donner l'ordre des relations qu'il y a entre le fils et Chateaubriand. Ballanche est de la société de Madame Récamier, Chateaubriand est amoureux de Madame Récamier et le familier de Madame Récamier. Jean-Jacques Ampère, qui était tombé amoureux enfant jeune de Madame Récamier, est resté fidèle à Madame Récamier et c'est lui qui, disons, rend visite à Chateaubriand vieillissant, à Madame Récamier vieillissante, qui les soutient dans leur vieillesse, on peut dire, en même temps que la nièce de Madame Récamier et le mari de la nièce de Madame Récamier. C'est lui qui se charge de ces gens. Par exemple, lorsque Jean-Jacques Ampère a été élu à l'Académie française, on a dû transporter Chateaubriand, qui ne pouvait plus se déplacer tout seul, pour qu'il vote pour Jean-Jacques. Donc il y a toute une société à laquelle Ampère a appartenu et qui va jusqu'à ce fait que c'est ce détail, si vous voulez, que c'est Chateaubriand qui a fait mettre la plaque sur la tombe d'Ampère à Marseille. Après, on a rapatrié naturellement le père pour l'enterrer à côté de son père au cimetière de
Montmartre.
Je
rappelle le titre de votre ouvrage, Robert Locquenu, Ampère, encyclopédiste et métaphysicien, paru aux éditions EDP Sciences, donc paru en mai 2008. Un ouvrage très complet avec, bien sûr, les correspondances d'Ampère. Et vous lisiez à l'instant, vous parlez de Jean-Jacques Ampère. Une partie de la dernière partie de votre ouvrage est consacrée un peu à Jean-Jacques Ampère, justement.
Oui.
Je vous remercie, Robert Locquenu, de nous avoir donné tous ces détails sur cet académicien qui était André-Marie Ampère, Jean-Jacques Ampère aussi, à l'Académie française. On y retrouve beaucoup d'académiciens, François Arago, Sainte-Beuve, on en parlait aussi au début de cette émission, qui était le biographe d'Ampère. Et puis, bien sûr, j'en oublie plein, mais on ne pourrait pas tous les citer. Merci beaucoup, Robert Locquenu, et puis peut-être à une prochaine fois pour un prochain livre.
Oh oui, j'en ai plusieurs.
Merci beaucoup, Robert Locquenu.
Au revoir. Je vous en prie.